Alors, premier sujet ce matin, blâmé par la commissaire à l'éthique, le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, se tasse, demeure député, mais quitte donc son poste au Conseil des ministres. Et il y a plusieurs questions qu'on peut poser. Est-ce que c'est une bonne, mauvaise nouvelle? Est-ce qu'il y avait le choix de rester ou de quitter, Nathalie?
Bien, c'est une nouvelle inévitable. Je dirais, Paul, que hier, là, cette nouvelle-là s'est accueillie comme un coup de tonnerre sur la colline parlementaire, bien que c'était prévisible, parce que il y avait trois rapports précédents, celui qui a été déposé hier. C'était quand même un coup de tonnerre. Pourquoi? Parce que c'est la première fois depuis la création du commissaire à l'éthique en 2010 qu'un commissaire recommande la suspension d'un ministre. Un, deux, pas n'importe quel ministre, il faut se le dire, Pierre Fitzgibbon, le puissant ministre de l'Économie et de l'Innovation, puissant là, dans tous les sens du terme. Il a la réputation d'être un gars qui emmène très large au Conseil des ministres. Là. Lui, là, en espace vide, il est capable de combler ça. Il n'a pas peur des défis. C'est un homme qui est très proche de François Legault. En politique, là, il n'y a plus de ministres qui peuvent se réclamer d'être des intimes de leur premier ministre. Dans le cas de Pierre Fitzgibbon, il est un intime de François Legault. Hier, d'ailleurs, c'est assez incroyable d'entendre le premier ministre dire « je vais continuer de consulter Pierre Fitzgibbon ». Alors, il a perdu un titre, mais il n'a pas perdu en influence. Bien au contraire, et je ne serais pas étonnée que François Legault lui confie un mandat spécial. Par exemple, en vue de la prochaine élection, lui demander de peaufiner, de développer davantage la plateforme économique de la CAQ. Alors ça, je ne serais pas étonnée de ça. Mais sur un autre ordre d'idées, tout ce qui s'est passé entourant Pierre Fitzgibbon, évidemment, renvoie à un autre débat. Celui-là va être fort intéressant. Qu'est-ce qu'on fait avec des ministres, avec des candidats, c'est-à-dire qui ont des actifs importants, qui viennent du milieu des affaires? Est-ce qu'on continue d'appliquer la règle actuelle, c'est-à-dire qu'il faut se départir de ses actifs pour faire de la politique, ou au contraire, on modernise un code d'éthique qui, bien franchement, en a probablement besoin depuis sa création?
Je pense que tu as raison. Tout le monde s'entend pour dire que Fitzgibbon, c'est un gars honnête. C'est un gars consciencieux, vigilant. Moi, j'ai beaucoup apprécié deux de ses décisions récentes, là, qu'elle est un peu contre le consensus du monde des affaires, même des fois, notamment sur le baseball, quand il a dit il n'y a pas d'argent à faire avec un stade. D'abord, d'un stade, on en a déjà un, puis on fait pas d'argent en construisant un stade. On fait de l'argent en attirant une équipe. Moi, je veux avoir une participation dans l'équipe. Donc là, veille aux intérêts du gouvernement du Québec. Ça, c'était très bien. Puis aussi, je pense que Legault a raison de dire que le code a mal vieilli sur ce point-là. On peut pas... quelqu'un qui a des investissements privés, puis ça se vend pas comme ça sur le coin de la rue. Même une petite photo sur IGA, tu sais, à vendre.
Sur Kijiji.
Ouais, c'est ça. ça se vend pas comme ça. Puis empêcher les gens de faire de la politique. Bon, évidemment, il y a la question, est-ce qu'il aurait usé de son influence? Alors, dans le cas de Fitzgibbon, la réponse, c'est non. On peut jamais être trop... vigilant, justement, puis ça se peut que dans 10 ans, quelqu'un utilise de son influence pour faire passer un règle. Mais là, il y a des manières de faire, tu sais, se retirer de la responsabilité, confier la responsabilité à un autre ministre. Dès que le dossier est en cours, empêcher la personne se retire de la place, etc. Je pense que les gens surestiment la possibilité qu'un élu a d'influencer un gouvernement, même un élu à très haut niveau, sur une compagnie qu'il possède et que tout le monde sait qu'il possède. Parce qu'il y a des milliers d'yeux là-dessus. Et c'est pas comme ça que ça fait la corruption. La corruption, il s'en fait en mot à dit, mais pas celle-là. Celle-là, au contraire, moi, je pense que Fitzgibbon va vivre des années difficiles devant lui parce qu'il a été au gouvernement, parce qu'il a eu des actifs. Tout ce qui touche Pierre Fitzgibbon pendant 10 ans, on va tout le temps se demander, est-ce que la décision du gouvernement de donner un prêt à telle compagnie est liée au fait que lui a des actions là-dedans? Est-ce que la décision du gouvernement de donner un contrat est liée au fait que lui... Et c'est arrivé à Taillefer, Alexandre Taillefer l'avait dit candidement, alors je me permets de le rappeler. Il pensait que en s'impliquant auprès du Parti libéral, il comprendrait mieux les rouages de la politique. À l'époque où il était responsable de la campagne de financement et l'élection avec Philippe Couillard, ben oui, c'est ça.
Oui, il était président de la campagne électorale,
ben oui, c'est ça.
Rappelez-vous.
Mais il a dit combien ça lui a nui pour Théo Taxi, parce qu'il demandait un changement réglementaire, et le réflexe des élus, c'est-à-dire, hey, wow, penses-tu qu'on va donner un changement réglementaire à quelqu'un qui a été dans un parti, ça c'est si l'autre parti est au pouvoir, et si c'est ton parti qui est au pouvoir, tu veux pas avoir l'air de donner un avantage, alors tu dis non. Donc, s'impliquer en politique, là, c'est extrêmement nuisible pour quelqu'un qui est en affaires.
Oui, mais en même temps, il faut se rappeler, parce que François Legault a lui-même élevé les standards en matière d'éthique et de transparence. Rappelez-vous, lorsqu'il a été nommé premier ministre, en fait, lorsque son gouvernement, son équipe a formé le gouvernement, il a dit « nous serons le gouvernement de l'éthique et de la transparence ». Aujourd'hui, François Legault, puis c'est évidemment, mon commentaire est de nature, c'est l'observatrice politique en moi qui formule ce commentaire, mais François Legault goûte aujourd'hui à sa propre médecine. Rappelez-vous, Éric Kerr, lorsqu'il était dans l'opposition, questionner le gouvernement de Philippe Couillard justement sur les enjeux liés à l'éthique et l'intégrité et rappeler ad nauseam un chum, c'est un chum, François Legault en 2014 qui, écoute, qui disait à Pierre-Carl Péladeau, vous devez vendre vos actions, pas question de mettre ça en fiducie, c'est insuffisant, vous devez vendre 72% des actions de votre compagnie. Et ça, moi je me souviens, lorsque Pierre-Carl Péladeau est arrivé en politique, là, ça a créé toute une polémique, mais il faut dire que Pierre-Carl Péladeau c'est un gars assez exceptionnel, merci, là, on s'entend, mais n'empêche, François Legault n'avait pas d'autre choix que de s'entendre avec son ministre pour que Pierre Fitzgibbon quitte. C'est bien triste parce qu'aujourd'hui, il y a une partie importante de l'opinion publique qui est du côté de Pierre Fitzgibbon, puis qui n'en vient pas de voir un ministre d'une telle qualité quitter parce qu'il n'a pas pu vendre ce qui lui reste de compagnie. Il faut se rappeler, il y avait quoi, une douzaine de compagnies, il en a vendu une dizaine, là, il en est à deux, mais en même temps, tu ne peux pas avoir un code d'éthique pour les élus, puis un autre code d'éthique pour Pierre Fitzgibbon, parce qu'avant lui, il y a d'autres ministres qui ont vendu, qui ont liquidé leurs actifs pour faire de la politique.
Dont M. Legault,
exactement. Et le sacrifice est énorme, là. Est énorme. Non seulement c'est une, tu sais, faut se rappeler à quel point c'est un métier extrêmement exigeant, mais lorsque tu dois liquider tes actifs, puis une réflexion comme ça, si les élus, effectivement, sont tentés à l'Assemblée nationale de modifier le code d'éthique pour permettre à des ministres, à de futurs ministres, de conserver certains de leurs actifs, malgré leur poste de responsabilité, malgré le fait qu'ils siègent au Conseil des ministres, ne pourrait-on pas faire la même chose pour les pauvres personnes qui réclament de l'aide sociale, puis qui, elles, sont obligées de liquider leurs actifs pour avoir
bon
droit
point,
à...
La...
Ben non, mais
tellement
écoute...
raison, bon parallèle.
Ben non, mais tu sais, le pauvre ben, femme...
C'est une analogie.
Ben là, mais c'est parce que c'est deux poids, deux mesures. Tu peux pas permettre... Puis on s'entend, les gens qui ont des actifs en politique, là, dans le milieu des affaires, c'est des gens, généralement, qui sont assez fortunés. Mais la pauvre femme qui combat un cancer, qui est obligée de vendre son Elantra au 2010, là, qui voit à peu près 8 000 $ pour toucher des prestations d'aide sociale, puis Paul, tu sais à quel cas je réfère, là, tu lui as parlé déjà il y a quelques mois au téléphone. Exact. Ça n'a pas de maudit bon sens. Fait que je pense qu'on peut pas tolérer le deux poids, deux mesures dans le contexte actuel. Fait que les élus pourraient faire une pierre deux coups, honnêtement, sur cette question-là.
Oh, mais oui, vas-y.
Oh, non, je veux dire, si on veut régler la corruption, là, il y en a des gros, gros, gros dossiers. Là. C'est sur la collusion, qui est bien plus importante que la corruption, sur les extras, sur les terres contaminées, sur la surfacturation.
J'allais dire, le rapport de la vérificatrice tantôt sur la régie du bâtiment qui, où tu apprends, entre autres, que quand ils font les vérifications, ils arrêtent à peu près au deuxième niveau. Fait que tu peux avoir quelqu'un qui, mettons, est corrompu et qui corrompt et qui a 3-4 compagnies, puis la régie du bâtiment va donner les permis,
fouiller.
Non?
C'est un exemple.
Après la pause, deuxième sujet, le candidat de Nicodère qui veut interdire la consommation d'alcool dans les parcs après 20 heures, c'est une bonne ou une mauvaise idée? On en discute. On va aller tout de suite voir ce qui se passe sur la 20.